Aloha is control dial, right? Bon, alors, cette question de la différence entre l'homme et l'animal peut être abordée de deux façons. Une façon strictement scientifique et une façon plutôt spirituelle. Alors, je voulais donner les deux pour montrer de quoi il s'agit. Évidemment, il y a des gens qui disent que l'homme est un animal simplement un peu plus évolué que l'autre animal. C'est-à-dire, la plupart des matérialistes sont d'accord de dire que l'homme est le plus évolué de tous les animaux, n'est-ce pas? Donc, ils sont prêts à reconnaître la supériorité de l'homme, mais ils ne considèrent pas que ça constitue une autre espèce. Mais ce point de vue ne tient pas debout. Et donc je veux d'abord entamer quelques réflexions de nature strictement scientifique. Il y a différentes façons de classifier les êtres. Mais une façon qui est la plus objective, c'est selon les transformations d'énergie dont une catégorie d'êtres sont capables. Alors, je pense que cette idée va devenir tout de suite très claire. Si je prends des substances inorganiques, comme les minéraux par exemple, les métaux, enfin les rochers, ces choses-là, enfin, peuvent absorber de l'énergie et ils peuvent rayonner de l'énergie. Et c'est tout. C'est-à-dire, un rocher au soleil, il va se chauffer pendant la journée, ok, parce qu'il va emmagasiner la chaleur du soleil. Mais le soir, le rocher va refroidir, n'est-ce pas? Il va simplement absorber l'énergie ou il va rayonner l'énergie. C'est la seule transformation énergétique dont le rocher est capable. Si on considère les plantes, qui sont dans des substances organiques, et les formes de vie les plus rudimentaires, les plantes peuvent, bon, ça se cumule, n'est-ce pas? Ça se cumule. Donc les plantes, bien entendu, comme toute substance, peuvent absorber et rayonner de l'énergie. Donc tout ce que le minéral peut faire, la plante peut le faire. Mais la plante aussi peut croître. Ce qui veut dire précisément que la plante peut utiliser l'énergie de l'extérieur pour complexifier sa structure. Ça, le rocher ne peut pas faire. Vous pouvez verser toute l'énergie que vous voulez sur le rocher, il va rester le même. Mais la plante, si vous la plantez, vous l'enracinez dans le sol, s'il reçoit le soleil, la pluie et tout ça, alors la plante est capable de prendre les substances du sol, à prendre l'énergie solaire et tout ça, et se complexifier. Et donc, c'est ce qu'on appelle la croissance, habituellement. Alors, ça distingue les plantes des rochers, si vous voulez, de façon totalement objective. C'est-à-dire, il n'y a pas de rocher qui peut croître, il n'y a pas de plante qui ne peut pas croître, n'est-ce pas? Évidemment, les plantes absolument les plus simples, comme certaines bactéries et tout ça, ils se développent presque uniquement par la mitose, c'est-à-dire la division des cellules. Mais peu importe, en fait, ça c'est quand même la croissance, c'est quand même une transformation d'énergie parce qu'il faut qu'ils mangent. Et une fois qu'ils mangent, c'est-à-dire qu'ils s'approprient de certaines substances, alors la cellule se divise en deux cellules et vous avez donc le phénomène de croissance. Si on prend les animaux, les animaux, encore une fois, il a toujours cumul de capacités, c'est-à-dire les animaux peuvent absorber et rayonner de l'énergie. Les animaux peuvent aussi croître, ils peuvent s'approprier des substances et de l'énergie externe pour croître. Mais l'animal a aussi des capacités que la plante n'a pas, surtout d'abord la locomotion, n'est-ce pas, la possibilité de se mouvoir, ce que les plantes ne peuvent pas faire, elles sont enracinées dans le sol. Et deuxièmement, la sensibilité, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, toutes ces choses-là. Les sensibilités, ce qui est aussi une transformation d'énergie, c'est-à-dire par exemple, si le chien voit quelqu'un qui s'approche, il va peut-être aboyer, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le reflet du soleil, de la lumière qui vient de la personne, qui est entrée dans ses yeux. Son cerveau a transformé ça dans un certain enchaînement de réactions métaboliques qui font que le chien aboie, n'est-ce pas? Donc c'est une transformation énergétique, et c'est une transformation énergétique dont la plante n'est pas capable de faire, n'est-ce pas? Alors on vient maintenant à l'homme. Et on peut se demander, qu'est-ce que l'homme peut faire objectivement que la plante ne peut pas faire? Quelle transformation énergétique est-ce que l'homme peut faire que l'animal ne peut pas faire? Alors, habituellement, quand j'arrive à ce point-là, je pose ça comme une vraie question pour voir si les gens sont capables, mais je ne veux pas faire ça ce soir parce que je ne veux pas faire didactique. Peut-être la moitié des étudiants arrivent à l'identifier. Mais essentiellement, ce que l'être humain peut faire que l'animal ne peut pas faire, c'est la transformation de l'énergie sous forme d'information. Mais il faut être un peu précis ce qu'on entend par information, parce qu'évidemment, on peut dire, mais voilà, le reflet de lumière dans l'œil du chien, c'est aussi une information, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on veut dire précisément pour l'information, c'est la capacité de donner une signification arbitraire à un symbole quelconque. C'est-à-dire, pour l'animal, l'information est toujours reliée à la forme physique, c'est-à-dire l'animal voit un homme ou un autre animal qui vient. Alors ça, c'est une certaine information qui est fonction de la forme, de l'odeur, des propriétés physiques de l'animal, n'est-ce pas? Mais pensez à l'alphabet, par exemple, de la langue française. Les symboles dans l'alphabet sont complètement arbitraires, n'est-ce pas? Donc complètement, qu'est-ce que ça veut dire A, B, C? Ça ne veut rien dire. C'est une pure convention que d'attribuer une signification et dire que les suites de lettres ont une signification, des mots et tout ça. C'est parfaitement arbitraire. Donc, ce n'est pas la forme physique de A ou de B ou de C qui donne sa signification ou son utilisation dans le langage, pas du tout. Il suffirait, on pourrait utiliser 1, 2, 3, 4, etc. On pourrait utiliser n'importe quoi. N'est-ce pas? Aussi longtemps que vous pouvez distinguer les symboles. D'ailleurs, il suffit d'avoir deux symboles, parce qu'avec deux symboles distincts, vous pouvez construire une infinité de symboles distincts. Donc, c'est ça. L'homme a cette capacité, et c'est la capacité dont Abdu'l-Bahá parle, l'intelligence. Mais là, je cerne un peu de façon objective qu'est-ce que ça veut dire, l'intelligence. Parce qu'encore une fois, si vous dites, mais l'homme est intelligent, les animaux ne le sont pas, vous allez tout de suite avoir des arguments, des gens qui disent, mais voilà, il a quand même le conditionnement, les animaux ont une intelligence, ce qui est vrai, et on peut même raconter des exploits des chiens et tout ça, enfin, qui ont sauvé des vies, etc. Donc, on ne peut pas dire que les animaux sont sans intelligence. Donc, on a devoir dire que l'intelligence, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal, il faut comprendre en quel sens, quelle sorte d'intelligence. Mais Abdu'l-Bahá lui-même le précise dans un autre écrit, que c'est ce qu'il appelle le raisonnement abstrait ou le langage symbolique, c'est-à-dire c'est l'utilisation, la capacité d'utiliser, d'attribuer une signification à un symbole parfaitement arbitraire. Donc, la signification qu'on donne à la lettre A n'a rien à voir avec la forme de la lettre A, n'est-ce pas? Ça n'a aucune propriété physique de la lettre A dicte la signification qu'on lui donne. C'est parfaitement arbitraire. Alors, là, c'est une transformation énergétique dont les animaux sont absolument incapables. Une fois que j'ai parlé un peu de cela dans une conférence que j'ai donnée en Colombie-Britannique, il y avait une fille qui étudiait en anthropologie ou je ne sais pas quoi, et puis elle commençait à me donner des arguments comme quoi que les gorilles étaient quand même assez intelligents, etc., etc. Et puis j'ai donné des exemples, et puis il dit, mais elle avait quand même, sans doute elle avait un professeur qui était matérialiste dans son approche des choses, enfin, parce que c'est l'idée reçue, c'est le dogme reçu. Donc elle persistait. Elle dit, et peut-être l'intelligence des gorilles va évoluer, en fait, on ne peut pas dire qu'on est supérieur. Alors finalement, je dis, madame, qu'est-ce que vous préférez? Être le gorille le plus intelligent ou l'être humain le plus bête? Elle a dit, l'être humain le plus bête. Et voilà.
Le gorille, c'est plus de l'instinct que de l'intelligence, de la pensée, des émotions.
Mais en tout cas, c'est ça que, quand ils sont vraiment confrontés avec le sens logique de ce qu'ils disent, ils voient que c'est absurde quand même, n'est-ce pas?
Mais je crois que c'est aussi l'idée que l'homme descend, l'idée reçue que l'homme descend.
Mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Oui, c'est ça, c'est que l'homme est un animal plus évolué que les autres animaux. Mais, c'est-à-dire, ce que je veux souligner, c'est qu'objectivement, peu importe comment ils sont arrivés là, les êtres humains ont des capacités que les animaux n'ont tout simplement pas. Et ces qualités sont objectivement identifiables, n'est-ce pas, et quantifiables.
Juste au niveau des émotions, c'est les potes d'animaux qui vont avoir des réflexes, vont avoir un instinct de préservation, mais ils n'auront pas les émotions qu'on est capable d'avoir.
C'est-à-dire que, ça c'est la deuxième chose que j'allais justement mentionner, c'est la conscience, le phénomène de la conscience. Et l'homme est encore une fois le seul être, à notre connaissance, qui est doué de conscience, qui est conscient de lui-même, qui sait qu'il existe. Donc le chien est un chien, mais le chien ne sait pas qu'il est un chien. Le chien n'a aucun concept de lui-même, il ne peut pas dire « je suis un chien ». Il est un chien et, comme Jacques dit, il réagit comme un chien. Donc ce qui fait que les émotions chez l'homme est différente, c'est la conscience, c'est le fait que nous avons ce deuxième ordre de réflexion, c'est-à-dire nous pouvons ressentir l'émotion et réfléchir sur l'émotion qu'on vient de ressentir. Alors ça donne toute une autre émotion. L'animal peut ressentir l'émotion, mais il ne peut pas réfléchir sur ce qu'il ressent. Donc c'est la conscience qui est la caractéristique la plus fondamentale qui distingue l'homme des animaux. Maintenant, donc ça c'est le point de vue scientifique, ou un peu matériel si vous voulez. Du point de vue spirituel, les écrits Bahá'í nous disent que ce qui distingue principalement l'homme de l'animal, c'est le fait que l'homme a une âme. Et cette âme est une substance non physique, non matérielle. Al-Gabra dit dans un certain passage que l'âme humaine est complètement en dehors du monde physique. Que l'âme n'habite pas le monde physique, que c'est complètement en dehors du monde physique. Et il explique ça un peu en disant que toutes les entités physiques sont composées d'éléments. Donc toute existence physique est une composition d'éléments, tandis que les entités spirituelles, telles l'âme, sont des substances uniques, c'est-à-dire ils n'ont pas de partie, ils ne sont pas composés d'autre chose. Et c'est pourquoi l'âme est immortelle, parce que la mort, au sens de la non-existence, n'existe pas, n'est-ce pas? La mort, c'est une transformation. Et la mort, c'est une transformation qui représente une dégradation ou une décomposition. Mais puisque l'âme n'est pas composée, elle ne peut pas se décomposer, donc elle ne peut pas mourir. C'est aussi simple que ça. Donc cette transformation que nous appelons la mort ne peut pas atteindre l'âme parce que l'âme n'est pas composée d'éléments. Et qu'est-ce que c'est la mort? C'est la décomposition. Les animaux, donc chaque individu a une âme, toujours selon les écrits Bahá'í. Donc l'âme est individuelle, c'est pas simplement une sorte d'esprit général qui habite tout le monde, n'est-ce pas? Chaque âme est individuelle. Et les animaux et les autres formes de vie n'ont pas d'âme, dans ce sens-là. C'est-à-dire, Abdu'l-Bahá parle de l'esprit de l'animal ou l'esprit de la plante, mais cet esprit est une force générale, justement, ce n'est pas une entité spirituelle qui est reliée à l'animal et tout ça. C'est justement l'esprit de l'animal, c'est ce qui lui donne sa sensibilité et tout ça, mais ce n'est pas spécifique pour chaque animal, c'est-à-dire c'est un esprit, si vous voulez, niveau d'existence, qui est général, qui est partagé par tous les animaux. Tandis que l'âme de l'être humain est vraiment individuelle. C'est vraiment individuel. Et c'est immortel, comme j'ai dit, et c'est le lieu, c'est le siège, si vous voulez, de toutes les capacités de l'être humain, les capacités supérieures telles que la conscience, d'abord, la volonté, la capacité d'aimer, enfin la capacité de cœur, et l'intelligence, la volonté. Maintenant, est-ce qu'on pourrait démontrer l'existence de l'âme? Est-ce qu'il y a moyen d'aborder la question de l'âme autre que par un appel simplement aux écrits Bahá'í? Alors oui, il y a une façon, c'est en combinant un peu la pose spirituelle et la pose scientifique. Et je voulais juste étaler ça pour quelques secondes. Selon la question, où réside la différence entre l'homme et l'animal? C'est-à-dire que, qu'on appelle l'homme un animal plus évolué ou non, tout le monde est d'accord que, selon le comportement et capacité, l'homme est infiniment supérieur à l'animal. D'ailleurs, comme il faut dire que l'animal qui est le plus proche biologiquement de l'homme, c'est le chimpanzé. Le chimpanzé, nous partageons 98% de nos gènes avec le chimpanzé. D'ailleurs, c'est 98,6. Donc, il y a moins de 2% de gènes que nous avons que le chimpanzé n'a pas. De tous les gènes que vous avez, il y a une infime partie qui ne soit pas partagée avec le chimpanzé. Et nous savons... Oui.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme.
Moins de 2%.
Oui, oui.
Et alors, quels seront est-ce qu'ils savent quels sont les gènes non partagés?
Bien sûr. Bien sûr, ça c'est l'affaire du génome. Maintenant, ils ont complètement dépisté le génome humain et tout ça. Alors oui, bien sûr. Et aussi, il faut dire que nous savons maintenant, avec certitude 100%, que les gènes sont parfaitement interchangeables. C'est-à-dire, c'est exactement comme les électrons ou les atomes, ils sont interchangeables. C'est-à-dire que un gène joue toujours le même rôle dans n'importe quel corps où il se trouve. Le rôle que joue un gène, c'est un gène est un code qui engendre une séquence d'acides aminés. Ça crée une séquence d'acides aminés. Donc le gène est, si vous voulez, une petite machine qui a comme devoir, bon, je vais faire cette séquence d'acides aminés. Alors vous prenez, si vous avez le même gène, vous pouvez prendre ce gène dans un chimpanzé, dans un cochon, dans un serpent, dans n'importe quoi, il va jouer exactement ce rôle-là, c'est-à-dire il va engendrer cette même suite d'acides aminés. Donc, quand je dis nous partageons nos gènes avec les chimpanzés, c'est vraiment les gènes chez nous et les gènes chez les chimpanzés font exactement le même travail. Exactement le même travail. Oui. Maintenant, comparons le comportement observable de chimpanzés et l'être humain. D'ailleurs, comme fatalement c'est le cas, il y avait un psychologue qui a fait l'expérience. Il a élevé, quand sa fille est née, okay, il a pris un bébé chimpanzé et il les a élevés de la même façon en observant soigneusement quelles étaient les différences et comment l'être humain finit par être supérieur au chimpanzé. Alors, pendant les premières 12 à 18 mois, le chimpanzé surperformait l'être humain. C'est-à-dire, la courbe du chimpanzé, c'est ce qu'on appelle logarithmique. Donc, c'est-à-dire, dès sa naissance, sa capacité augmente très rapidement, de jour en jour en jour. C'est-à-dire, la période de dépendance de l'enfant est infiniment plus long chez l'être humain que toute autre espèce, n'est-ce pas? En fait, les petits oiseaux, les petits chimpanzés, dans quelques jours, ils sont indépendants, ils peuvent se débrouiller seuls presque, ok? Ou peut-être après 2 semaines, donc ils deviennent indépendants très vite. Tandis que l'être humain, ben, on est dépendant pour 5 ou 6 ans même, n'est-ce pas, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas quel est le plus jeune âge où vraiment un enfant pourrait se débrouiller tout seul, mais certainement pas beaucoup avant 5 ans, je pense. Certainement pas à 3 ans, n'est-ce pas. Donc, la période de dépendance chez l'être humain est beaucoup plus longue. Et ça veut dire que, bon, et aussi, le développement de l'être humain est beaucoup plus lent au départ. C'est-à-dire que le développement est petit à petit, chaque jour, etc. C'est ce qu'on appelle exponentiel, n'est-ce pas? Donc, pendant 12 à 18 mois, le chimpanzé surperforme l'être humain de tous les points de vue que vous voulez. La mobilité, la dextérité, l'intelligence, si vous voulez, enfin, l'habileté, la vitesse de compréhension, etc., etc., il surperforme l'être humain. Alors, je dis 12 à 18 mois, parce que qu'est-ce qui arrive entre 12 et 18 mois? C'est que l'enfant acquiert la langue. Et à partir de ce moment-là, le comportement de l'être humain continue à augmenter infiniment, si vous voulez, c'est exponentiel, et le comportement du chimpanzé se stabilise, c'est une courbe logarithmique, n'est-ce pas? Donc, vous pensez, le chimpanzé c'est comme ça, et ça reste plat pour le reste de sa vie, c'est-à-dire, il atteint très vite sa maturité, il atteint très vite le summum de sa capacité, et il reste plafonné là pour le reste de sa vie, n'est-ce pas? Tandis que l'être humain, commence très lentement, il même sous-performe le chimpanzé jusqu'à ce qu'il acquiert la langue, et aussitôt qu'il commence à parler et à comprendre la langue, alors son comportement ça augmente enfin, indéfiniment, et on voit la naissance de la conscience et tout ça, ce qu'on ne voit pas chez le chimpanzé, n'est-ce pas? Donc, on pourrait dire, ok, avec un écart aussi grand, et nous parlons du comportement observé, c'est-à-dire, c'est pas des choses abstraites, spirituelles dans le sens de caché, n'est-ce pas, en fait, on voit que l'enfant parle, on entend qu'il parle, etc. Donc, ce sont toutes des choses quantifiables, aussi quantifiables que vous voulez, n'est-ce pas. Alors, et par-dessus le marché, ça embête les matérialistes incroyablement. Ils disent, mais quand même, le chimpanzé, si on l'entraîne comme il faut, enfin, sûrement il peut, etc. Parfois, c'est les dauphins.
Ils
disent,
il ne faut pas parler.
Non, mais, bien sûr, mais ben, ils ont entraîné les chimpanzés à répondre à certains signes et tout ça. Ils disent, c'est une sorte de langage, ils disent, etc.
Les dauphins aussi.
C'est ça, oui, oui. Mais en tout cas, où je veux en venir, c'est simplement la chose suivante. Quand il y a une différence non négligeable de comportement entre deux systèmes, il doit y avoir une explication. C'est-à-dire, si deux systèmes se comportent substantiellement de la même façon, alors on ne cherche pas une explication. On dit, ben voilà, les systèmes sont semblables, donc ils se comportent de la même façon, n'est-ce pas? Mais si nous voyons deux systèmes qui sont semblables à certains égards, mais qui se comportent de façon radicalement différente, alors nous pouvons dire qu'il doit y avoir une raison. Alors, si on invoque une raison génétique, eh bien, là il faut expliquer comment c'est 1,4% de gènes que l'être humain a, que le chimpanzé n'a pas, fait toute cette différence, n'est-ce pas? Ce n'est pas évident. Maintenant, il est vrai que la structure du cerveau de l'être humain est légèrement plus complexe que la structure du cerveau du singe, enfin du chimpanzé. Mais pas beaucoup. C'est un petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup. Et le singe n'est pas capable de conscience. Donc, si on est strictement matérialiste, on n'a qu'une seule conclusion, que cette petite différence infime de complexité suffit pour faire naître la conscience. C'est-à-dire que la conscience naît à un certain niveau de complexité. Et rappelons que les composantes du système nerveux n'ont pas, eux, elles, les capacités de conscience. C'est-à-dire, la conscience, si c'est un phénomène du cerveau, si le cerveau est conscient, vous avez le phénomène d'une machine dont les composantes sont non conscientes, mais telles que le composé est conscient. OK. Alors, et personne ne pense que les atomes et les molécules dans le cerveau d'un être humain sont conscientes, n'est-ce pas? Parce que c'est les mêmes atomes qui existent dans d'autres choses. Exactement. C'est-à-dire, si ce n'est pas conscient quand c'est dans un arbre ou dans un champ quelque part, pourquoi c'est conscient? C'est simplement parce que c'est dans votre. Donc c'est le système qui est conscient, ce n'est pas les composantes. Ça, c'est très important. Alors, évidemment, on connaît ça en science, on connaît ce qu'on appelle les propriétés de deuxième ordre des systèmes. Ce sont des propriétés du système qui ne sont pas inhérentes aux composantes. Exemple, très simple, aucune cellule de votre corps ne peut marcher. Mais votre organisme, votre corps peut marcher. Ça, c'est une propriété de deuxième ordre de votre corps comme système. C'est une propriété du système qui est vraie du système, mais qui n'est pas vraie des composants qui font le système. Donc, il est logiquement possible que la conscience chez l'être humain soit une propriété de deuxième ordre du système du cerveau. C'est-à-dire que même si les composantes n'ont pas de conscience, comme les cellules de votre corps ne peuvent pas ambuler, enfin, ok, ne peuvent pas marcher, de la même façon, mais votre corps peut, de la même façon, les composantes du cerveau n'ont pas de conscience, mais le cerveau, lui, a de conscience. Mais si on prend cette position, comme je dis, la seule explication logiquement possible, c'est que la conscience est une fonction de complexité. C'est-à-dire arriver à... Donc, c'est-à-dire que l'homme, le cerveau de l'homme dépasse le seuil de complexité nécessaire à faire naître la conscience. Mais si on croit cela, si on dit que la conscience est strictement fonction de complexité, alors on est obligé de venir à la conclusion que quand les ordinateurs seront suffisamment complexes, vas-y, oui. Je dis si, écoutez la chose, si le phénomène de conscience est une fonction de la complexité et rien d'autre, alors,
les ordinateurs pourraient devenir
des
et donc, puisque personne ne pense, enfin, sauf certains intellectuels, enfin, puisque personne qui a du bon sens pense que les ordinateurs vont devenir conscients, alors ça c'est une preuve, s'il y en a, que le phénomène de conscience ne réside pas simplement dans la complexité. Alors, donc, on a le droit de se demander, quelle est donc, puisque l'infime différence entre l'homme et le singe ne sont pas capables d'expliquer l'énorme différence de comportement entre le singe et l'homme, on est obligé de conclure rationnellement qu'il y a une autre force qui agit sur le système et qui fait la différence. Donc ça, c'est une sorte de démonstration de l'existence de l'âme, c'est-à-dire que l'homme doit être doué d'une force. Moi, je préfère le mot force, n'est-ce pas? Doit être doué d'un pouvoir ou d'une force qui seule explique l'énorme différence dans le comportement observable. On ne parle pas de dire des prières, d'avoir des visions, tout ça. Je parle de comportement observable. Ça, c'est très important. N'est-ce pas? Donc, en réalité, nous pouvons savoir que l'âme existe à peu près avec la même certitude qu'on sait que la gravitation existe, n'est-ce pas?
C'est une force invisible.
C'est une force invisible, mais dont les résultats sont visibles. Dans l'action est visible, exactement comme la gravitation est une force invisible, mais nous laissons tomber des choses, ils tombent toujours vers la base, ils tombent toujours vers la base. On peut dire que c'est simplement un hasard, c'est excessivement, mais on ne dit pas ça. Non, il y a une force, un pouvoir qui fait que ça tombe. Et c'est la même chose. C'est ça, exactement. C'est ça, oui, c'est ça.
Utiliser le mot entité, une force, une entité.
Oui. Oui, c'est-à-dire que.
Un mot qui n'est pas physique, qui n'est pas matériel.
C'est ça, mais une force aussi qui est non matériel, oui. En tout cas. Alors. Et près de la mort, oui.
Après la mort physique, des expériences vécues par certaines personnes qui ont été cliniquement déclarées mortes, mais après quelques instants sont revenues, en repris vie. Et il y a eu des expériences qui, des scientifiques ont interrogé ces personnes et puis ils ont toutes certaines expériences en commun. c'est-à-dire ce qu'elles expérimentent pendant ces quelques instants, semble similaire. On parle souvent d'un tunnel avec une lumière au fond, oui, des gens qui l'attendent.
Il y a un bout de fromage.
Lumière,
<c'est vrai. rire>